VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 17 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo dénoncent un acharnement après l'appel de la CPI contre son acquittement.
En Guinée, le président de la commission électorale propose le 28 décembre pour la tenue des législatives.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en Belgique pour sa première visite officielle en Europe.
L'Afrique du Sud présente ses plus sincères excuses au Nigeria après la récente vague d'attaques xénophobes à Johannesburg et ses environs.
Il n'y aura aucune négociation avec les États-Unis, dit l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien.
Les Israéliens se rendent aux urnes pour décider du sort du Premier ministre Benjamin Netanyahou, au pouvoir depuis une décennie.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a fait appel hier contre l'acquittement de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et de l'un de ses proches, Charles Blé Goudé. La nouvelle a suscité de vives réactions à Abidjan. Irénée Herman Ngbo.
Pascal Affine-Guesson, président d'une tendance du Front populaire ivoirien, a dénoncé la décision de Madame Bensouda. C'est du dilatoire juridique et de l'acharnement politique pour maintenir le plus longtemps possible loin de leur pays Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et les empêcher de prendre part à la vie politique de la Côte d'Ivoire, a déclaré M. Nguesson. Georges Armand Ouéné, président d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une coalition pro-Gbagbo qui regroupe des partis politiques d'opposition et des associations de la société civile, a lui aussi fait part de sa déception. Je suis profondément déçu, mais je garde espoir, a-t-il lancé, indiquant avoir confiance en la justice, même s'il flaire un acharnement judiciaire. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont innocents. C'est important qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire pour la réconciliation nationale, a-t-il martelé. L'appel introduit par Fatou Bensouda va démontrer, selon elle, que la chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l'acquittement de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé.
En Guinée, le président de la commission électorale, Salif Kébé, a proposé hier, à l'issue d'une rencontre avec le premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, que les élections législatives se tiennent le 28 décembre conformément aux souhaits du président Alpha Condé. Mais les représentants de l'opposition au sein de cette instance ont jugé cette date irréaliste.
L'Afrique du Sud tente de rassurer les pays africains après les récentes violences xénophobes. Un émissaire de Pretoria en visite hier à Abuja a présenté, je cite, « ses plus sincères excuses au Nigeria dans le cadre d'une tournée africaine ». Le point avec Abdourahman Dia.
L'ancien ministre Jeff Radebe, envoyé par le président Cyril Ramaphosa, a rencontré le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari. Ces événements ne représentent pas les valeurs que nous défendons, a rappelé M. Radebe. Le président Buhari a assuré à l'envoyé sud-africain que les relations entre les deux pays seraient consolidées. Après le Nigeria, la mission doit faire étape au Niger, au Ghana, au Sénégal, en Tanzanie, en République démocratique du Congo et en Zambie. L'Afrique du Sud a été touchée par une vague de violences xénophobes qui ont fait une douzaine de morts dans les townships et le centre-ville de Johannesburg. De nombreux pays africains ont vivement réagi à ces attaques. Le chef de l'État sud-africain avait été hué par la foule samedi au Zimbabwe lors des obsèques de Robert Mugabe et avait affirmé se tenir ici comme un frère africain et présenter ses excuses et exprimer son regret. Monsieur Buhari et Ramaphosa doivent se rencontrer lors d'une visite d'État en Afrique du Sud le mois prochain.
Le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, est arrivé hier soir en Belgique pour sa première visite officielle dans l'ex-puissance coloniale. Il cherche à normaliser une relation qui a été très éprouvée lors des dernières années de la présidence de Joseph Kabila. De Bruxelles, notre correspondant Thierry Kamundi.
Accueilli par Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères, le chef de l'État congolais a eu droit aux honneurs militaires et à un bain de foule de nombreux de ses militants avant de quitter l'aéroport. Et pour débuter sa visite officielle en Belgique, un dîner lui a été offert lundi soir par le Premier ministre. C'est une visite pour redynamiser les relations entre la RDC et la Belgique après des années de brouille, nous a lâché un diplomate belge. C'est vraiment historique parce que c'est un gars de chez nous, il est de la Belgique, il a grandi ici et parti opposant, il nous revient président de la République, nous a pour sa part commenté l'un de ses soutiens vivant en Belgique. Ce mardi, Félix Tshisekedi sera reçu par le chef du gouvernement Charles Michel et le roi Philippe. Notez tout de même que pour cette première visite en Europe de Félix Tshisekedi, des militants de l'opposition ont prévu quelques manifestations à Bruxelles contre sa présence ici en Belgique, parce qu'ils considèrent toujours qu'il a volé la victoire de leur candidat Martin Fayoulou à la dernière présidentielle. Bruxelles, Thierry Kamboundi pour VOA Afrique.
En Tunisie, un constitutionnaliste austère contre un homme d'affaires en prison, tel devrait être le duel du deuxième tour de la présidentielle, selon des résultats toujours partiels. Le point avec Ekia Badou.
Kaïs Sayed, un universitaire de 61 ans, sans parti politique, recueille 18,9% des voix, d'après l'instance électorale portant sur 2/3 des suffrages. Il devance l'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui, qui recueille 15,5% des suffrages devant le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, qui lui obtient 12,9%. C'est assez représentatif du résultat et a priori le classement final ne risque pas de changer, a déclaré Mohamed Lili Mansri, un responsable de l'ICIE. 7 millions d'électeurs étaient appelés dimanche à départager 26 candidats. La participation a été d'environ 45%, très loin des 64% enregistrés lors du premier tour de la présidentielle de 2014. Kaïs Sayed s'est fait connaître comme commentateur politique et cultive une image de monsieur propre, incorruptible et au-dessus de la mêlée. Nabil Karoui, lui, est issu des cercles du pouvoir, mais s'est positionné contre eux et a vu son image d'antisystème renforcée par son incarcération fin août.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le guide suprême iranien a exclu mardi toute possibilité de négociation avec les États-Unis à l'heure où le président américain dit être disposé à rencontrer son homologue iranien tout en menaçant Téhéran. De l'avis unanime de tous les responsables de la République islamique d'Iran, il n'y aura aucune négociation avec les États-Unis à quelque niveau que ce soit, a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei, selon son site internet officiel.
Le président américain Donald Trump a déclaré hier que toute attaque militaire américaine contre l'Iran serait proportionnée à celle perpétrée contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Il répondait hier à des questions à des journalistes sur les propos du secrétaire d'État Mike Pompeo, blâmant directement l'Iran pour ses attaques. Plus tôt dans la journée, M. Trump avait souligné que tout en ne voulant pas la guerre avec l'Iran, les États-Unis sont mieux préparés que tout autre pays dans l'histoire du monde, ajoutant, cela dit, nous aimerions certainement l'éviter. La diplomatie n'est jamais épuisée.
Ces attaques sans précédent contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite ont en tout cas réveillé la crainte d'une confrontation militaire avec l'Iran, mise en cause plus ou moins directement par Washington et Riyad. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le président Donald Trump, qui s'est dit dès dimanche prêt à répondre et sur lequel tous les yeux sont braqués pour savoir s'il va ordonner des frappes contre l'Iran, a réuni lundi son équipe pour faire le point sur la situation. Son ministre de la Défense, Mark Esper, a assuré que le Pentagone travaillait avec les partenaires des États-Unis pour répondre à cette attaque sans précédent et défendre l'ordre international sapé par l'Iran. Le locataire de la Maison-Blanche a toutefois insisté sur sa décision de coordonner avec les autorités saoudiennes pour les aider, précisant que le secrétaire d'État Mike Pompeo et d'autres se rendraient en Arabie Saoudite prochainement. Dimanche, il avait dit attendre que Riyad désigne le coupable. L'Arabie Saoudite a fait un pas en ce sens lundi en affirmant que les armes utilisées dans l'attaque étaient iraniennes, selon les premiers éléments de sa propre enquête qui se poursuit pour identifier l'origine des tirs. L'attaque a été revendiquée par les rebelles houthis du Yémen, mais l'armée saoudienne a rejeté cette version et Mike Pompeo a estimé qu'il n'y avait aucune preuve que cette attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial soit venue du Yémen.
Les Israéliens votent ce mardi lors de législatives qui opposent le Premier ministre Benjamin Netanyahou au pouvoir depuis une décennie à l'ancien chef de l'armée Benny Gantz, 5 mois après un premier duel sans issue. Pressenti en avril pour former un gouvernement de coalition, M. Netanyahou avait échoué dans ses efforts, dissous le Parlement et provoqué un nouveau scrutin.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Cameroun, Terminal Investment Limited a décroché la concession du terminal à conteneurs du port de Douala, l'un des plus grands d'Afrique. À partir du 1er janvier 2020, le groupe suisse prendra la tête de ce terminal stratégique exploité depuis 15 ans par le français Bolloré. Ce dernier avait été écarté en janvier dernier du processus de sélection. Le port de Douala est le plus grand port d'Afrique centrale, principale porte d'entrée de marchandises pour le Tchad et la Centrafrique, deux pays enclavés voisins du Cameroun. La compagnie canadienne Kinross Gold veut investir 150 millions de dollars pour améliorer la production de sa mine d'or Tasiaste en Mauritanie en 2021, révèle l'agence Ecofin. Avec une capacité de traitement de 24 000 tonnes par jour, la production annuelle moyenne de la mine devrait dépasser les 500 000 onces. Le projet devrait permettre d'étendre la durée de vie de Tasiaste de 4 ans, soit jusqu'en 2033. Entre 2020 et 2033, la mine produira environ 6,2 millions d'onces. Cotée à la bourse de Toronto, la société minière Kinross Gold possède des mines et des projets miniers en Mauritanie, au Ghana, aux États-Unis, au Brésil, en Russie et au Chili. Pour finir, les échanges de la Chine avec l'Angola ont totalisé 13,643 milliards de dollars, soit plus de 1,90% au premier semestre de cette année. Les exportations chinoises ont représenté 935 millions de dollars, soit une baisse de 10,26%, tandis que les importations ont totalisé 12,708 milliards de dollars, soit une hausse de 2,93% selon le Forum Macao.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Ligue des champions UEFA ce soir.
Oui, entre autres rencontres, Naples du Sénégalais Kalidou Koulibaly attend Liverpool de l'autre Sénégalais Sadio Mané, du Guinéen Naby Keïta, du Camerounais Joël Matip et de l'Égyptien Mohamed Salah. Dortmund reçoit le FC Barcelone de Lionel Messi qui a reçu le feu vert de ses médecins. L'attaquant argentin, remis d'une blessure à un mollet, a été retenu dans le groupe de 22 joueurs convoqués pour ce choc de la première journée de C1 en Allemagne, au même titre que le gardien brésilien Neto qui souffrait d'une fracture à un poignet. Le club français de Lille reçoit l'Ajax Amsterdam du Marocain Hakim Ziyech. Pour ce premier test d'envergure, Ziyech sera privé de deux comparses de la saison dernière, Matic de Ligt et Frankie de Jong, qui ont rejoint respectivement la Juventus Turin et le FC Barcelone.
L'Espérance de Tunis connaît son parcours au Mondial des clubs 2019.
Tout juste confirmé, vainqueur de la Ligue des Champions par la commission d'appel de la CAF, le représentant africain entamera sa compétition en quart de finale avec une opposition contre le champion d'Asie. En cas de qualification, les CAO affronteront ensuite le vainqueur de la Copa Libertadores. Sur l'autre voie, le CF Monterrey du Mexique croisera les crampons contre le champion du play-off entre l'hôte Al-Sadd du Qatar et Hygiene Sport de l'Océanie. Le vainqueur de ce match sera face en demi-finale à Liverpool, champion d'Europe et favori du tournoi. La Coupe du Monde des clubs aura lieu du 11 au 21 décembre prochain au Qatar.
Au Nigeria, l'État a saisi des biens de certains dirigeants de la Fédération de football.
La commission anticorruption a procédé à la saisie de 12 propriétés de hauts responsables de la Fédération. La moitié des biens saisis appartient à Amadou Pinnick, président de la Fédération. Cette saisie est le dernier épisode d'une enquête ciblant de hauts responsables de la Fédération, accusés du blanchiment de plusieurs millions de dollars. Ils sont tous sous le coup de 3 enquêtes distinctes et doivent répondre de 17 chefs d'accusation, allant de l'omission de déclaration d'actifs au détournement de 8,4 millions de dollars versés à l'instance nationale du football nigérien par la FIFA. En juillet dernier, la CAF a exclu Pinnick de son poste de vice-président à cause des charges pesant contre lui.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, Pascal Afinguesson, président d'une tendance du Front populaire ivoirien, dénonce un dilatoire juridique et de l'acharnement politique pour maintenir le plus longtemps possible loin de leur pays l'ancien président Laurent Gbagbo et l'un de ses proches, Charles Blé Goudé. La procureure de la CPI, Fatou Ben Souda, a fait appel contre leur acquittement prononcé en janvier. Pour une réaction, Idriss Fall a joint hier Maître Emmanuel Avit, avocat de Laurent Gbagbo.
Alors oui, la procureure a déposé aujourd'hui même une notice permet à la Cour et au parti de savoir qu'elle va déposer ce qu'on appelle un mémoire d'appel dans un mois. Donc elle poursuit dans la voie de l'appel. L'appel est fondé sur des considérations techniques. Le mémoire d'appel de la procureure sera déposé dans un mois. La défense y répondra assez rapidement et les juges d'appel se prononceront ensuite. Ce sont des considérations techniques que fait valoir la procureure. C'est sur ces considérations techniques que nous répondrons et les juges d'appel décideront dans un délai relativement court. Voilà, donc la procédure continue, mais elle continue sous un angle, disons, plus technique.
Et qu'est-ce que cela va signifier pour Laurent Gbagbo ?
Ça signifie d'abord que la procédure n'est pas complètement terminée, mais que le président Gbagbo a toujours dit qu'il voulait que la justice soit rendue, qu'une justice complète soit rendue pour que la vérité soit dite. Et par conséquent, il attend la suite de la procédure de façon sereine et de façon confiante.
Est-ce que ça signifie qu'il doit retourner en prison ou bien ?
Pas du tout, pas du tout. Son innocence a été reconnue, les charges portées contre lui ont été réfutées, les juges de première instance ont considéré qu'il était parfaitement innocent, il n'est pas question qu'il retourne en prison.
Mais si la procureure fait appel, elle veut quoi alors ?
Alors, on attend, pour être tout à fait précis, aujourd'hui nous avons reçu la notification de la volonté de la procureure de poursuivre la procédure d'appel. La procureure déposera un mémoire d'appel dans un mois. Tant que nous n'avons pas ce mémoire d'appel, nous ne connaissons pas exactement la substance de ce que dira la procureure. Nous ne connaissons pas exactement sa position. Il est donc trop tôt pour se prononcer d'une manière ou d'une autre. En ce qui concerne le président Gbagbo, la situation aujourd'hui est la suivante. Les charges portées contre lui ont été rejetées par les juges de première instance. Son innocence a été reconnue. C'est un homme innocent, un homme libre et qui est aujourd'hui en dehors de prison et qui ne retournera pas en prison.
Mais qui ne va pas retourner en Côte d'Ivoire de sitôt non plus.
C'est tout à fait autre chose. Si vous voulez, les modalités de sa liberté sont une chose, la procédure d'appel est autre chose, les deux ne sont qu'indirectement corrélés. Et nous verrons, il y aura discussion sur les modalités de son séjour. Nous verrons en temps utile.
Joint hier par Idriss Fall, Maître Emmanuel Atit, avocat de Laurent Gbagbo.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, des organisations de la société civile et des syndicats ont manifesté ce lundi pour dénoncer la mauvaise gestion du pays et surtout ce qu'elles ont appelé l'insécurité grandissante. Mais la marche qui était prévue a été repoussée par les forces de l'ordre, les autorités estimant qu'elle était illégale. De Ouagadougou, Lamine Traoré.
Course poursuite ce matin dans les rues de Ouagadougou entre manifestants et policiers. Eux qui étaient sortis pour dénoncer la malgouvernance, l'impunité et le terrorisme.
Évidemment, nous sommes sortis pour magnifier notre mécontentement vis-à-vis de ce régime qui est en place.
Abdoul Fattah Bangré était de la marche.
Malheureusement, nous avons été gazés par les forces de défense et de sécurité. Il faut le dire, c'est très très malheureux. Nous sommes sortis pacifiquement pour marcher et nous sommes gazés. Dans tous les cas, nous allons ressortir. Et de façon plus courageuse, avec les moyens de bord, nous allons donner des forces pour atteindre notre objectif.
Une marche pacifique et vers l'état-major que la police a commencé à nous lancer du gaz lacrymogène. Ils nous ont lancé le gaz jusqu'à la bouche du travail.
Ida Tapsova, une marcheuse.
C'est vraiment décevant. Parce que ceux pour qui nous luttons aujourd'hui, c'est ces mêmes-là qui sont en train de nous chasser. Et le pays est confronté au terrorisme et à la mauvaise gestion. Nous sommes en train de dénoncer cela. Ça ne va pas dans tous les secteurs, ça ne va pas. C'est compliqué. Regardez comment nos SDF sont en train de tomber. Si nous continuons dans cette lancée, tout le monde va finir au Burkina.
Les responsables de la marche estiment que le pays va mal et l'État les empêche de manifester. Bassolman Bazier, secrétaire général de la CGTB, Confédération générale du travail du Burkina.
C'est tout pour dénoncer la malgouvernance. C'est pour dénoncer l'insécurité dans le terrorisme. C'est pour dénoncer le pillage des ressources nationales. C'est pour dénoncer le fait que les travailleurs et les populations sont dans des conditions intenables. C'est pour dénoncer l'expropriation des terres des paysans. C'est pour dénoncer la violation des libertés. Mais quand on empêche une voix de dénoncer tout cela, ça veut dire qu'on est la preuve patente de ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait bonne gouvernance. De ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la sécurité. De ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'on voit clair dans la gestion du patrimoine national. De ceux qui ont intérêt à ce que les paysans soient clochardisés et que les terres soient expropriées. Sinon, ils n'auraient pas agi de cette façon.
La mairie de Ouagadougou ainsi que le gouvernement burkinabé, eux avaient annoncé la semaine dernière que la marche des syndicats et des organisations de la société civile était illégale. Ces organisations ne comptent pas baisser les bras. Dans les jours à venir, des mots d'ordre suivront, ont-elles rassuré. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Première réunion à Kigali de la commission ad hoc sur la mise en œuvre du mémorandum d'entente entre le Rwanda et l'Ouganda. Selon la diplomatie rwandaise, les discussions se sont déroulées dans un climat de franchise et de bonne entente. Venuste Nishimi Yimana, correspondant du service Afrique centrale de la VOA à Londres, a joint Olivier Nounegirehe, ministre rwandais en charge de la communauté est-africaine.
C'est une réunion importante puisqu'elle était destinée à discuter d'une manière franche des problèmes qui existent entre nos deux pays. Et donc cette réunion a eu lieu d'une façon franche dans une atmosphère cordiale. Nous avons discuté de tous les problèmes et nous avons abouti à quelques décisions et recommandations, y compris sur le sort des Rwandais qui ont été arrêtés de manière illégale et soumis à la torture en Ouganda. Nous sommes convenus que la République d'Ouganda va revoir ses dossiers et libérer ceux contre lesquels il n'y aura pas d'évidence solide ou une procédure judiciaire n'aura pas été entreprise.
Et ces Rwandais qui sont détenus dans des prisons ougandaises, quand seront-ils libérés?
Justement, c'est l'un des points de communiqué d'aujourd'hui, puisque nous, ce qui est important, ce qui est primordial, est que nos concitoyens rwandais soient libérés au plus vite. Nous nous sommes convenus qu'il y aura une deuxième réunion de cette commission ad hoc qui aura lieu à Kampala dans un mois, et on espère que dans un mois, tous les Rwandais seront libérés, puisque c'est un engagement de la République de l'Ouganda et de toutes les parties qui étaient en présence aujourd'hui.
Vous vous êtes donc parlé franchement. Avez-vous évoqué la question de la réouverture de la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda?
Cette question a été évoquée, mais il faut comprendre que la question primordiale était relative à la persécution des Rwandais donc, qui traversent la frontière, puisque lorsqu'on parle de libre circulation de marchandises, de biens et de services, lorsqu'on parle de commerce transfrontalier, cela ne se fait pas tout seul, cela se fait par des personnes. Donc, si on discute et qu'on trouve une solution à la question de la libre circulation de personnes sans risque d'être persécutées, là, on va résoudre dans le même temps la question des frontières et la question de la libre circulation des marchandises.
On sait que depuis un certain temps, le Rwanda et l'Ouganda se livrent une sorte de guerre sans merci sur les réseaux sociaux. Et cette question a-t-elle été évoquée aussi ?
La question a été évoquée puisqu'on a bien sûr le problème des médias, surtout des médias ougandais qui, ces derniers mois, donnaient la parole aux membres du groupe terroriste RNC. Il y en a plusieurs qui ont parlé dans les médias officiels ougandais. Et donc cette question a été évoquée et d'ailleurs une décision a été prise et les deux parties se sont engagées à mettre fin à toute propagande hostile, que ce soit dans les médias classiques, que ce soit sur les réseaux sociaux.
C'était Olivier Ndungirehe, ministre rwandais en charge de la communauté est-africaine.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Congo-Brazzaville, les populations de Mindouli, dont le poule, connaissent du succès dans la production maraîchère et piscicole grâce à la nouvelle technique de maîtrise de l'eau. Connu comme bassin légumier du Congo, Mindouli avait tout perdu suite au conflit armé. Reportage de notre correspondant sur place, Arsène Séverin.
Après la guerre, le travail. Mindouli a repris depuis quelques mois avec la production des fruits et légumes, une activité traditionnelle qui permet à chaque famille de vivre dans cette localité. Témoignage des producteurs.
Maintenant, là, ça a repris. En tout cas, les légumes, ça a repris. La majorité ici à Mindouli, au moins 75% de familles, ils ont un petit étang et puis ils cultivent le maraîchage.
Bon, l'oignon, les choux et la tomate par rapport à la guerre. Maintenant, là, c'est bon.
Et nous savons que maintenant, là, Mindouli deviendra encore comme auparavant Mindouli 1. Parce que la guerre nous a emporté, les événements nous a remis à zéro.
Pendant les conflits armés, l'activité agricole a été déstructurée à Mindouli, qui pourtant est connue comme bassin maraîcher dans le pays. La technique de la canalisation d'eau a redonné espoir aux populations qui produisent beaucoup plus avant. Gérard Menganzitokolo, producteur.
De quoi nous sommes très d'accord, c'est pourquoi on cherche qu'on augmente encore la quantité d'eau, parce que nous avons 21 étangs ici là. Nous exploitons sur 149 hectares.
Le site Lambokwandolo est le plus important bassin de production à Mindouli, où on pratique aussi la pisciculture. L'opérateur de motopompe, Justin Mandou, sur les avantages de cette nouvelle technique.
Par semaine, si on peut arroser deux fois avec la motopompe, et quand les gens vont passer avec les arrosoirs, vraiment, il y aura toujours l'humidité. Et telle que la tomate, le légume en fruits, ça demande beaucoup d'eau.
L'eau est captée depuis les hauteurs d'une colline à l'est de la ville. Le programme alimentaire mondial en a assuré la logistique. Jean-Martin Bauer est le représentant du PAM au Congo.
Ici, nous avons reconstruit les étangs piscicoles, c'est-à-dire avec des techniques de gestion de l'eau améliorées. La technique traditionnelle veut que quand le poisson est prêt à être commercialisé, on crève la digue et c'est beaucoup de travail pour casser et refaire les digues. Ce que nous avons mis en place ici, ça a été la construction de moines, des instruments de régulation de l'eau.
La production agropiscole redevient un marché juté dans le pool, si bien que le haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Landry Eloge Kolela, appelle les ex-ninjas à en profiter.
Bien sûr, nous disons que cette station peut déjà servir de formation à ceux des ex-combattants qui veulent se lancer dans la pisciculture. Hein, c'est une très bonne chose.
D'ici là, les premiers étangs vont livrer leurs poissons au grand bonheur des coopératives qui ont longtemps trimé sous la guerre. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nicolas Ivanov. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.